Conférence organisée par KiddyWiz. Je me présente rapidement. Amélie Bottero de la société Baby Björn. Je suis en charge du marché français, donc commercial et marketing. Donc je vais commencer par une petite présentation rapide de la société. Baby Björn est une entreprise familiale qui a débuté en 1961 par monsieur Björn Jacobson. Björn vient de léguer ses parts de la société à ses quatre enfants. Donc on est heureux de rester une société familiale aujourd'hui. On est 150 employés en tout, dont 100 basés en Suède. Donc je suis moi-même aussi basée en Suède, à Stockholm. On a un chiffre d'affaires global de 570 millions de couronnes. Donc c'est à peu près équivalent à 58 millions d'euros. On a 80% du chiffre à l'export, ce qui est énorme, et on est présent dans 50 pays. La mission de notre société, c'est vraiment de simplifier la vie des parents ayant des enfants en bas âge, et nos produits correspondent à un nouveau-né jusqu'à 3 ans. Alors, est-ce que vous savez quel est le premier produit lancé par Baby Björn ?
Non.
C'est le Transat, donc on a lancé en 1961, suivi par le porte-bébé, lancé dans les années 70, suite à des études réalisées sur le bienfait du portage. Aujourd'hui, notre gamme se compose de 3 produits phares. Donc, on a la catégorie porte-bébé, avec le porte-bébé WA, le porte-bébé mini qu'on a lancé récemment, les Transat, Transat Bliss, Transat Balance Soft, et les lits parapluies Light et lits parapluies Easy Go que l'on a lancé en juin cette année. On a aussi une gamme cuisine et une gamme salle de bain. Donc, marketing d'influence. Qui dit marketing dit cible. Notre cible est... les futurs parents, puisque l'achat de porte-bébé et de transat se réalise en général dans le troisième mois de grossesse. Et on utilise du coup les influenceuses, ici présentes, et d'autres, dans notre marketing global de la société. Donc en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment utiliser le rôle prescripteur des influenceuses pour communiquer les valeurs de la marque, pour communiquer sur un lancement ou pour communiquer sur, sur une catégorie de produits, par exemple. Et je vais laisser donc la parole aux influenceuses pour discuter donc de comment développer la prise de parole pour les marques.
Bonjour à tous, enchantée, moi c'est Aurélie. Moi je vais vous parler du choix de l'influenceur et de la relation partenariat. Déjà dans un premier temps, j'aimerais bien savoir qui d'entre vous a déjà fait un partenariat avec un influenceur. Levez la main. Ok, cool. Pour moi, une relation entre un influenceur et une marque, en tout cas une relation réussie, ça va être du naturel, de la prescription, de l'habitude et de la confiance. Vous m'entendez bien ? Ouais, c'est bon. Okay. Dans un premier temps, quand vous contactez un influenceur, la première chose que vous devez regarder, si elle colle à l'ADN de votre marque. Regardez le type d'audience qu'ils ont. Je pense que vous n'avez pas de budget à gâcher. Donc, tout de suite, savoir si l'influenceur va savoir parler de votre marque. S'il a un enfant de l'âge, par exemple, ne pas proposer ce type de transat sur un enfant de 6 ans, ça serait ridicule. Donc, vraiment, comme ça. Ok, d'accord, je n'ai pas l'habitude. vous intéresser, c'est vraiment un long travail de regarder le type de communauté, voir ce qui peut coller à l'influenceur et à la marque. Et le plus important, c'est de savoir s'adapter à l'influenceur. Ça veut dire que vous allez peut-être l'approcher avec une idée précise, un brief, une campagne qui ne va pas pouvoir établir naturellement. Et là, c'est hyper important de savoir faire un travail d'équipe et de savoir communiquer avec lui pour adapter je vous assure que c'est une réussite quasi sûre si les deux savent s'allier et trouver la communication adaptée entre la marque et l'influenceur. Un autre point super intéressant, c'est être réaliste quand vous allez contacter un influenceur sur les retombées que vous voulez. Vous allez envoyer une poussette à un influenceur, ne vous attendez pas à ce qu'il en vende 10 dans la journée, c'est impossible. Voilà, il faut vraiment vous dire que, alors influenceur c'est le mot générique, moi je préfère prescripteur personnellement. Il ne faut pas oublier que les mamans influenceurs, à l'époque ce mot n'existait pas, on n'aimait pas forcément le format forum, on a juste ouvert nos blogs pour discuter comme avec des copines interposées, maman au foyer. Voilà. Et avec le temps tout ça c'est peaufiné, on a tout professionnalisé notre activité, mais le format qui fonctionne encore le mieux c'est quand on sait discuter encore avec nos abonnés comme des copines à qui on va vraiment donner de vrais conseils. Voilà. Si, si l'abonné se sent floué, il s'en va et ciao, et pour vous c'est vraiment pas de la bonne publicité. Donc voilà, ne pas oublier que c'est un format bien spécifique et ne pas vous attendre à... C'est vraiment sur la durée en fait. Par exemple, un transat que j'ai reçu moi il y a 4 ans, je reçois encore des messages aujourd'hui de mamans qui tombent enceintes maintenant, qui se souvenaient du transat que j'avais reçu, qui me demandent si vraiment 4 ans après j'en étais ravie et qui aujourd'hui le mettent à nouveau sur leur liste de naissance. Ça, c'est pas du tout quantifiable pour vous, mais nous, en fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de SAV en MP, en mail, etc. Et c'est vrai que pour vous, c'est pas du tout quantifiable, et je sais bien que c'est compliqué. Voilà. N'hésitez pas à communiquer. Alors, je sais plus combien de temps ça fait que les fils le font. Moi, j'ai commencé en 2010, donc ma communauté, en fait, je la connais sur le bout des doigts. Je sais quand un produit que je vais présenter va bloquer ou non. Et c'est là où c'est hyper important de savoir s'adapter et d'écouter l'influenceur quand il vous dit le discours là, il ne va pas du tout passer et qu'il vous propose un autre brief. Si ça ne passe pas, encore une fois, c'est de la mauvaise publicité pour vous et pour nous, c'est hyper mauvais aussi. Voilà. Je vais vous parler... Enfin, chacune, en fait, on a toutes des profils différents. On a toutes des types d'insertions bien précis et chouchou. Moi, je vais vous parler de la première insertion qui a existé peut-être dans le blogging, c'est l'article blog. Je pense que vous êtes tous au fait, vous avez tous lu un blog, voilà. Souvent, on nous contacte pour donc de la rédaction. Donc, généralement, les marques, ce qu'elles recherchent, ça va être maintenant beaucoup de visuels de qualité. Parce que maintenant, les visuels sont très importants dans le référencement Internet. Ça va être une vraie histoire. On a toute notre patte, on a toute notre façon de faire du storytelling. Voilà, c'est vraiment la nouvelle mode. Et puis, ce qui est génial dans un article blog, c'est que là, vous pouvez placer des liens qui iront directement dans votre boutique, affiliation, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages SEO. Et sur le temps, c'est vraiment, voilà, encore une fois, le transat que j'ai recommandé il y a 4 ans, et ben, il est encore lu, et lu, et relu, et voilà. Et puis, je vais donner la parole à Julie qui va parler d'un autre format.
Bonjour, donc je m'appelle Julie et donc moi je vais vous parler des 4 points qui font, on va dire, le phare du post Instagram pour lesquels vous allez nous contacter afin de pratiquer ensemble un partenariat. Donc au niveau des premiers points, excusez-moi, je me permets de lire un petit peu mon texte parce que je suis un petit peu stressée. Tout d'abord, le premier point pour ma part, c'est de croire au produit, donc vraiment à la sincérité du produit. Donc pour ma part, je vais toujours étudier ce produit, à savoir s'il va plaire ou pas à ma communauté. Donc je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose que je sais d'avance, comme disait Aurélie d'ailleurs, on connaît parfaitement notre communauté, on ne va pas partir sur des produits qui ne vont pas leur plaire. Donc comme on dit, on a un petit peu d'influence, donc on ne va pas vendre quelque chose aux gens sur lequel la sincérité n'est pas importante pour nous. Voilà. Donc pour ma part, c'est vraiment le premier point afin de pouvoir pratiquer le partenariat avec la marque ou la société. Le deuxième point, c'est j'étudie le produit. Donc au moment de la réception, voilà, c'est pas tout de suite de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment de prendre un temps. C'est très important afin de tester le produit, de le découvrir. Je parle de ça en semaine ou en mois, de savoir comment ça se passe, si c'est quelque chose de familial, enfantil ou mode ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. En ce qui concerne le troisième point, donc la démonstration du produit. Donc à savoir, encore une fois, comme disait Aurélie, donc soit à travers un article blog, soit à travers une story Instagram ou une photo Instagram. donc afin de le développer. Donc c'est vrai qu'en story, c'est sympathique de montrer comment nous l'utilisons au quotidien. Ça, c'est vrai que les gens aiment beaucoup qu'on leur montre voilà, comment ça fonctionne, comment nous, on l'utilise. Et en même temps, on a beaucoup de retours, soit de leur part, si eux, ils l'ont, comment ça se passe, etc. Et afin de vraiment pouvoir bien communiquer sur le produit. On ne peut pas se permettre d'en parler sans se dire, bon, bah voilà, en fait, on ne sait pas vraiment. Voilà, à travers la marque, c'est pas quelque chose, je pense que ce n'est pas vraiment un bon ressenti. Donc ça, c'est pour moi une des choses les plus importantes. Et le dernier point, la transparence. Donc effectivement, un produit n'est pas toujours parfait. Et ça, c'est très important de le dire à sa communauté. C'est vrai que moi, pour ça, je suis très transparente. Quand ça me plaît, je le dis. Quand il y a des choses qui me plaisent moins, je le dis également. Parce que voilà, on va influencer et des gens vont prendre du temps pour venir voir ce qu'on propose. Et si après le produit ne leur convient pas, alors ça peut arriver bien évidemment, mais je pense que c'est quelque chose de primordial, vraiment, d'être sincère, vraiment, à travers sa communauté. Il faut vraiment respecter la marque et respecter notre communauté. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup.
Bonjour, moi je suis l'INSEE de Bien Vivre Sa Grossesse. Bien Vivre Sa Grossesse, c'est une page autour de la grossesse et de la maternité, tournée autour de l'humour et de la dédramatisation. Et pour mettre en avant des marques, moi je pars sur des publications qui sont plus virales, pour justement toucher beaucoup plus de personnes et faire en sorte que les mamans et les futurs parents puissent se reconnaître à travers ces publications. Donc c'est moins lifestyle que mes collègues, c'est beaucoup plus des publications qui vont être tournées sur, voilà, soit sur la dérision ou soit sur le ressenti des parents. Donc pour mettre en avant des marques, ce que je fais, ce que je propose trois axes. Le premier axe, ça va être par exemple des publications qui mettent en opposition deux produits. Donc là, par exemple, pour le cas de Baby Bjorn, ce que je proposerais, par exemple, c'est de mettre en opposition leur transat physiologique en expliquant les différents points, en mettant quelques flèches en montrant les points positifs de ce transat-là, et en opposition, une marque, sans la citer, un produit sans citer, qui lui n'est pas ergonomique et physiologique, en expliquant à la communauté pour quelles raisons il devrait prendre ce produit par rapport à un autre. Impliquer aussi la communauté en leur demandant également s'ils ont testé le produit, ce qu'ils en ont pensé, parce que c'est eux. En fait, ils font la propre publicité du produit. Et étant donné que je connais ma communauté, je vais leur mettre un produit qui, je sais, sera forcément un best-seller. Et derrière, ça fera la propre publicité en fait, de la marque. Et en troisième aussi, donc, c'est organiser un jeu concours. Organiser un jeu concours hyper ciblé. Donc ça permet à la marque d'avoir des personnes qui participent à leur jeu. Et qui ne sont pas des concouristes. C'est vraiment ce sera une cible potentielle qui achètera son produit. Donc organiser des jeux avec, ben, par exemple, un transat qui est forcément dans la cible, et derrière envoyer du trafic sur la page de la marque. Donc au lieu d'avoir des personnes qui vont participer pour participer, ce seront des potentiels prospects pour votre marque qui seront envoyés. Donc peut-être moins, peut-être moins de participants, mais des participants qui seront qualifiés. Donc voilà comment je fonctionne sur la page. Et donc je laisse Cécile vous présenter sa façon de fonctionner.
Bonjour, donc moi je suis Marie-Charlotte du compte Instagram Home Marie-Charlotte et le blog Le Monde des Petites Plumes. Et moi je vais vous parler des stories Instagram. Donc c'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Je trouve que c'est un format très très pratique, c'est-à-dire que quand vous faites un post Instagram, il faut faire une belle photo, un joli texte en dessous, avoir testé le produit, voilà, pour être crédible. Sauf que parfois les marques, vous attendez de nous que rapidement on vous parle du produit. Et la story, c'est vraiment le format, vous recevez le produit, vous dites à votre communauté, vous filmez, vous dites à votre communauté, voilà, je viens de recevoir tel produit, je vais le tester et je vous ferai un retour par la suite en poste. Ça permet donc d'avoir, moi j'ai un taux d'engagement assez important dans les stories, c'est-à-dire qu'elles sont vues à peu près 15 000 fois sur 24 heures et ensuite on peut les mettre en story à la une pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines. Un an si on veut. Donc si je parle du produit ou je décris tous ces bienfaits, la personne, si elle a envie de retourner voir, même ça m'arrive très très souvent puisque c'est l'avantage des stories, c'est que la personne quand elle voit la story, elle vient voir votre elle vous pose des questions en message privé. Et donc ça permet vraiment d'instaurer une relation très copine, comme disait Aurélie. Elle peut vous poser des questions sans être gênée que sous une photo, c'est pas la même chose. L'avantage également, c'est qu'on peut mettre un lien direct qui renvoie directement sur la marque. Ça permet également de voir le nombre de vues. Vous, ça vous permet de quantifier notre taux d'influence, mais aussi le nombre de clics qu'il va y avoir sur la marque. Donc par exemple, sur cette photo, on voit, moi j'ai fait une petite story avec le Transat Babyborn et ma fille dessus. Donc on voit le nombre de vues, on voit le nombre de fois où les gens ont cliqué. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Et puis c'est tout en fait. Voilà. Donc je trouve que vraiment l'avantage de la story, c'est l'instantané. Parce que la photo, on doit faire un truc joli pour que notre feed soit cohérent et tout ça. Que là, on peut vraiment parler rapidement et puis en refaire. Et pour vous, il y a un bénéfice aussi, c'est qu'on peut être très généreux en story en fait. On peut en refaire à l'infini. Si un produit nous a plu, on peut filmer 10 fois le même transat pour la marque. Tout le temps. Voilà. Je passe la parole à Cécile.
Merci. Donc moi, je suis Cécile du blog We Love Like That, blog et réseaux sociaux. Ça grésille, non ? Non, c'est bon ? C'est que moi. Je voulais vous parler aujourd'hui du format aussi blog, puisque c'est comme ça, moi, que j'ai commencé, même si les réseaux sociaux, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais malgré tout, le blog, ça reste quand même un format qui est toujours intéressant, qui génère de plus en plus de trafic. Dans mon cas, en tout cas, ça continue de générer toujours plus de trafic et qui est intéressant pour les marques aussi parce que forcément, ça crée du référencement et des clics directs vers les produits. En général, quand une marque nous contacte, souvent, ce qui est attendu, c'est ce qu'on appelle l'article sponsorisé, donc qui parle d'un produit en particulier. Ça peut marcher et ça marche bien pour certains produits. Mais il y a un autre format que moi je trouve intéressant et qui va avec le fait, ce qu'on disait un petit peu toutes, c'est qu'une influenceuse, finalement, c'est une personne, une fille, qui a des dizaines de milliers de copines. Ces copines, c'est comme on est avec une copine, elle nous conseille quelque chose, on va lui faire confiance. Donc forcément, on attend une certaine proximité avec une blogueuse, une influenceuse. On lui fait confiance. Donc copine virtuelle nous dit « Regardez, voilà les produits que j'ai préférés, je les adore, etc. » On va avoir tendance à lui faire plus confiance. Donc c'est pour ça que... C'est par exemple des exemples d'articles, qui sont des articles un peu listes, donc qui présentent plusieurs produits dans une catégorie, les indispensables ou les astuces pour simplifier la vie de maman. C'est des articles qui sont très très vus, très relayés, notamment sur Pinterest, qui est un outil intéressant aussi dont on n'a peut-être pas trop parlé. Mais quand je crée un article, je vais toujours faire en sorte d'avoir des images qui vont être plus vues sur Pinterest, donc des images qui sont en long comme ça. Et avec des directement le titre, donc comme ici, simplifier sa vie de maman. Voilà, ça donne envie de cliquer. On a beaucoup de retours sur ça et on va avoir à l'intérieur peut-être plusieurs marques qui vont être citées, pas forcément dans les mêmes. Voilà, on ne va pas citer 5 transats par exemple, on va citer le transat qu'on préfère avec peut-être un biberon. Ça grésille pour moi, mais d'autres produits. Et ça, c'est des articles qui vont très très bien fonctionner en plus des articles sponsorisés. Et puis, il y a un autre moyen que j'utilise moi sur le blog aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, quand j'utilise un produit, que je le montre sur Instagram, sur le blog, etc., je vais forcément toujours recevoir des dizaines de messages. Ah, est-ce que c'est bien ce produit? Où est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Même si on a tagué le produit, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette partie shopping coup de cœur, où je remets tous les produits que j'ai aimés, que j'ai utilisés, que j'ai montrés. Comme ça, avec les liens directs, soit en affiliation ou pas, quand j'ai un partenariat. Et ça permet aux abonnés de retrouver par catégorie, par exemple là, les jeux. Voilà, ma fille a eu 2 ans, elle a reçu des jeux. Je les montre souvent sur Instagram ou ailleurs. Et on me redemande systématiquement après chaque message, chaque story, etc. On me redemande systématiquement, est-ce que tu peux m'envoyer le lien ? Donc je renvoie toujours vers ces listes. Donc en plus, ça permet de montrer plus de choses directement. Donc en plus, ça draine du trafic sur le blog et ça leur donne envie d'aller voir d'autres articles. Voilà pour moi.
Bonjour à tous. Donc moi je suis Aurélie du blog Madame Flouch. Moi je vais vous parler de la comparaison des produits parce que les filles ont un peu tout dit sur le reste. Alors j'ai trouvé un truc un peu original pour vous parler d'autre chose. Mais par contre je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit, qu'on soit tous d'accord. Alors moi je suis aussi souvent confrontée à beaucoup de demandes de la part de marques, par exemple pour un transat. Moi j'ai eu des jumeaux. Bon, c'est pas mes enfants, ils sont pas aussi beaux, mais ils sont beaux quand même. Moi par exemple, j'ai été beaucoup confrontée à des demandes de tests de produits. Et je vous avoue que moi je suis une grosse grosse curieuse et j'adore tester les produits. Et c'est une chose qui a été aussi bénéfique. C'est vrai que moi aussi ça grésille. Pardon. Et du coup voilà, moi j'ai pu recevoir pas mal de produits et du coup certaines marques ont pu être frileuses à l'idée de se dire « Ah ouais, mais je vais lui envoyer un transat alors qu'elle en a déjà 2 ». Et en fait, il y a eu aussi un super bénéfice, c'est que, ok, j'ai parlé des transats un par un, mais j'ai aussi fait un super comparatif. Donc, je ne sais pas si on va le voir. J'ai dû faire une slide avec le comparatif. Non, je ne l'ai pas fait, en fait. Je croyais qu'il y avait la photo. Et voilà. Vous voyez, après avoir parlé des transats un par un, j'ai fait un comparatif. Parce que votre produit m'a peut-être séduit. Et séduira peut-être d'autres personnes, mais séduira peut-être pas d'autres personnes. Il faut aussi se dire que quand on croit à son produit, il ne faut pas avoir peur de le mettre en comparaison. Moi, en l'occurrence, là, j'avais mis le Transat Baby Bjorn avec le Transat Baby Move, avec le Transat Baba et avec le Transat Stock. Et chaque personne a pu trouver les besoins qu'il avait. Pour un Transat, par exemple, le Baby Bjorn, il a cartonné pour les petites parisiennes qui avaient des appartements pas très grands et qui cherchaient quelque chose de compact. Il a cartonné pour les personnes qui avaient des gros bébés, parce que le Baby Bjorn, il va jusque 13 kilos. Moi, j'ai eu une fille qui faisait 9 kilos à 5 mois. Je peux vous dire que j'ai galéré après, parce que tous les transats s'arrêtent à 9 kilos. Alors là, Baby Bjorn, ils ont cartonné. Et tous les bébés super gros, hein, et c'est bien les gros bébés, et ben, du coup, ils ont été sur Baby Bjorn. Et ben, parce que ils ont vu un comparatif et ils se sont dit « Ah ouais, mais en fait, il y a des poids max sur les transats, parce que tout le monde ne le sait pas ». Donc voilà, il ne faut pas avoir peur aussi des fois d'être mise en comparaison avec d'autres produits, parce que ça peut être super bénéfique. Et justement, comme on a 10 000 copines, nos copines, on va montrer à nos copines, ok, alors toi, tu as un bébé qui est comme ça, comme ça, comme ça, tu as des besoins qui sont comme ça, comme ça, comme ça, et voilà tout ce que j'ai eu, et retrouve tes besoins, et trouve ce que t'avais, trouve le transat que tu veux. Donc voilà, c'était mon petit comparatif. Voilà. Je vais laisser le micro à Angie qui va vous parler d'autre chose encore.
Bonjour à tous. Alors moi, c'est Angélique de la chaîne YouTube Engie Maman 2.0. Mon format phare, c'est une web-série humoristique sur la vie de famille, de maman, de la grossesse jusqu'à l'adolescence. Vraiment, je traite tout l'univers de la famille de façon humoristique et aussi je fais des vlogs voyages et découvertes. Donc moi, je vais vous parler des différents contenus et formats sur YouTube, la façon dont vous pouvez placer votre produit sur YouTube, pas simplement sur ma chaîne. Donc pour moi, sur YouTube, l'avantage, c'est que c'est le format vidéo. Tu en as parlé un petit peu avec Instagram. C'est des formats très, très courts, instantanés. YouTube, ça va être des formats peut-être plus longs, plus construits, etc. Mais en tout cas, la vidéo, c'est une mise en situation dans les conditions réelles du produit. Donc, cette mise en situation peut être faite par des témoignages. Par exemple, j'ai travaillé avec Peugeot pour leur SUV 5008. Donc, ils m'ont envoyé le SUV. Et moi, je suis partie en vacances en Espagne avec plein d'amis et plein d'enfants. Et donc, on a utilisé le SUV en partant pour partir en voyage, etc. Et on l'a fait de façon très humoristique parce que le départ était interminable, les enfants qui couraient partout, la préparation, etc. Donc, moi, j'ai fait une vidéo sur ça en disant, bah voilà, départ interminable en vacances, et je crois qu'elle a dépassé les 1 million de vues. Tout simplement parce que c'est une mise en situation que les gens s'y retrouvent. Là, c'était dans des conditions réelles, c'est-à-dire que je partais vraiment en vacances, etc. C'est pas mon format humoristique qui est plus fictif. Ou alors, 28 heures de train interminable, j'ai fait une collaboration avec une ONG qui s'appelle Vision du Monde, et qui est la première ONG de parrainage d'enfants dans le monde. Je parraine moi-même un enfant en Mongolie, donc je suis partie en Mongolie pour rencontrer cet enfant et pour sensibiliser au parrainage. Et donc du coup, j'ai filmé en vlog mon voyage et la rencontre avec l'enfant, etc. Notamment, j'ai emmené mon fils et du coup la rencontre entre deux enfants d'univers complètement différents, de cultures différentes. Donc il y a cette mise en situation en témoignage quelque part. Il y a aussi ce que moi je fais, pas des tutoriels où on explique comment utiliser telle poussette, etc. Il y a aussi les vlogs mis en avant subtil, donc ça c'est autre chose, mais il y a les vlogs, les daily vlogs, ce que je ne fais pas non plus, mais c'est une façon de mettre en situation dans les conditions réelles son produit. Donc les daily vlogs, ça va être les mamans qui chaque jour partagent une petite partie de leur quotidien avec leur enfant. Et par exemple, vous leur envoyez un transat et donc dans la journée, elles parlent de la réception de ce transat et elles montrent comment leur enfant s'y sent, etc. Elles partagent avec leur communauté leurs impressions et en vidéo. Voilà, moi je le fais pas, c'est pas mon format, mais voilà, ça c'est une possibilité en fonction de l'axe de communication que vous voulez faire, mettre en place. Ou alors il y a une façon, ça c'est ma façon à moi, un peu originale, une façon plus subtile du coup au sein de ma web série. Moi je mets en situation des moments de la vie quotidienne de parents. Pour dédramatiser ces moments-là, les fatigues de la grossesse par exemple, je l'ai fait. Et ça, c'est un exemple aussi de partenariat, de collaboration avec une marque. C'était France Bébé, le laboratoire France Bébé Nutrition, qui a des petites boissons pour avec tous les oligo-éléments, etc., pour se sentir bien pendant la grossesse. Et moi, du coup, j'avais fait, donc là, c'est la grossesse 2, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur la grossesse. Et du coup, je suis allongée comme ça, au bout de ma vie, et j'ai fait vraiment toute une vidéo de 5 minutes sur la fatigue pendant la grossesse et quand on pique du nez au travail, etc., avec des musiques rigolotes. Et voilà, c'est ma façon de faire. Après, l'avantage de vidéo, c'est qu'on peut, et du montage, c'est qu'on peut, vraiment faire des choses très originales. On est assez libre sur YouTube pour développer des concepts. En parlant pas que de moi, il y a des YouTubeurs qui s'appellent McFly et Carlito. Ils avaient voulu sensibiliser par exemple à l'alcool et au fait de voilà, de, enfin, l'alcool, au fait de boire, etc. Et du coup, ils l'ont fait de façon très originale en partant en forêt entre copains avec un parcours à réaliser avec ils ont fait un partenariat avec une société qui crée des espèces de machines qu'on porte sur soi, des casques, des vêtements qui donnent l'impression d'être bourré. Et du coup, ils étaient partis en forêt. Ils étaient par deux, je crois. Ils devaient faire un parcours. Et en fait, ils se sont filmés. Il y en avait un qui filmait et l'autre qui, en fait, n'y arrivait pas. Et c'était hyper drôle. Ils tombaient, etc. Mais il n'y avait aucun danger. Et ça sensibilisait. Et ils ne buvaient pas vraiment. Donc, voilà. Donc, c'était assez original. Moi, par exemple, j'ai fait une collaboration avec une association qui veut sensibiliser à l'accessibilité des personnes handicapées en fauteuil roulant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que je suis partie dans Lyon, j'habite Lyon, avec eux, et j'ai vécu le fauteuil roulant pendant une demi-journée, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en fauteuil roulant moi-même. J'avais pas le droit de me lever, je devais vraiment être dans les conditions réelles. Et j'ai eu plein de défis à réaliser. Aller au musée, et en fait, je me rendais compte que on le filmait quoi, en temps réel, que c'était très très compliqué de trouver. On pense que c'est facile parce qu'il y a une entrée handicapée, on se dit « Oh, c'est cool !» Une entrée handicapée, facile, je vais aller là-bas. Sauf qu'en fait, l'entrée handicapée, il y a une rampe comme ça, soi-disant prévue pour les handicapés, sauf qu'on bascule, quoi. Donc voilà. Une dernière façon aussi, j'ai travaillé avec la Fédération française de cardiologie. Et en fait, ils voulaient sensibiliser au fait que c'est plus dangereux pour les enfants, finalement, de rester chez soi devant la console à jouer toute la journée, plutôt que de sortir, de faire du vélo, de tomber, de s'ouvrir le genou, etc. pour tout ce qui était cardiovasculaire. Et du coup, j'ai pas de miniature là représentative, mais en tout cas, et donc moi j'ai fait une vidéo sur la maman ultra stressée qu'emballait son fils dans du papier bulle chez elle, etc. Enfin voilà, j'allais vraiment dans le décalé, etc. Et je crois que l'approche aussi, les millions, cette vidéo, elle a dépassé. Voilà, ça marche parce que c'est décalé, c'est original, on parle quand même, on sensibilise et en marquant les esprits. Voilà. Donc après, en fonction de l'axe et de la façon dont vous voulez communiquer pour votre marque, il y a plein de possibilités et donc plein de youtubeuses qui vont communiquer de façon différente. C'est sûr, quand on va s'adresser à moi, par exemple, on va chercher le côté décalé, des concepts un peu originaux, etc. Et si on veut quelque chose de plus réel, avec des vrais témoignages, on va s'adresser plus à une youtubeuse qui va faire du daily vlog. Voilà, il y a plein de façons de travailler avec les youtubeuses. De la même façon que mes collègues, quand je reçois une demande de marque, je filtre aussi parce que je souhaite aussi, de toute façon, même si c'est de la fiction, être honnête avec ma communauté. Moi, j'ai reçu par exemple des demandes de marques pour la diététique, pour mettre des crèmes, pour maigrir, etc. Moi, je n'utilise pas ça, donc en fait, je dis, mais en fait, je ne vais pas parler de ça, même de façon humoristique, même quoi que ce soit, parce que je ne le fais pas et enfin, ça ne me touche pas, personnellement. Voilà, même en tant que maman, je pourrais, hein, mais ça ne me touche pas. Ouais, voilà. Ou alors, ça peut. J'ai refusé aussi certaines collaborations parce que, même si moi, ça me touche, ça n'allait pas toucher ma communauté. Parce que ça peut être compliqué pour ma communauté, etc. Donc pareil, j'essaie de combiner les deux, que ça me touche moi et ma communauté, ça peut, enfin voilà. Donc voilà par rapport à YouTube, et n'hésitez pas si vous avez des questions en fonction de nos spécialités respectives, on y répondra.
C'était beaucoup trop bien, vous n'avez aucune question ?
Alors, dernier point qu'on voulait parler avec vous, c'est qu'en visitant les stands et en allant vous parler, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur la rémunération. Vous m'entendez bien ? Ouais, c'est bon ? Okay. Donc, beaucoup d'entre vous doivent travailler en dotation avec les influenceurs en fil rouge sur plusieurs années, en les équipant, voilà, c'est sympa. Nous, les années défilent, on continue à utiliser vos produits. Voilà, les abonnés posent des questions. Je vais me dépêcher un petit peu. Et aujourd'hui, on essaie de profil, on a professionnalisé notre activité. Ça demande beaucoup de temps. Les communautés ont grossi. Et aujourd'hui, les influenceurs sont vus comme des supports médias. Voilà, il faut envisager ça comme ça. Chez KidiWiz, on a développé une régie, voilà, puisque la demande était forte. Entre autres, on représente Marie-Charlotte. Marie-Charlotte qui fait entre 10 000 et 20 000 vues par story par jour. C'est juste énorme. Donc, énormément de demandes, forcément, de partenariats qu'il faut gérer. Donc, je suppose que vous avez tous fait des appels à des supports médias. Aujourd'hui, le blogueur, l'influenceur est un support média à part entière. Pour les rémunérations, vous avez beaucoup de questions. Je vais me dépêcher un petit peu parce que le temps défile. La régie est vraiment là pour vous aider, en fait, parce qu'il y a des barèmes. Voilà, selon les blogueurs, voilà. Les barèmes ont des critères de... Alors, comment ça fonctionne ? Par taille de communauté. C'est assez spécifique. Par taille de communauté, combien de posts vous voulez, combien de temps l'influenceur va passer sur ces posts. Tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au stand Tout Rose, on serait ravis. On est passionnés, vous sentez, je pense qu'on a largement dépassé le temps et on serait ravis de répondre à vos questions. La plupart d'entre vous ne savent pas trop comment viser leur partenariat influenceur et on est vraiment là pour vous guider, vous donner une idée du budget. Voilà, et vraiment considérer les influenceurs maintenant comme des supports médias à part entière. Et puis on va passer aux questions-réponses, je pense que ça serait intéressant de savoir ce que vous aviez à nous demander. À Amélie ou nous d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a une question en attendant ? Personne, on a tout dit. Non ? Personne ?
Si, la dame. Mais oui, moi aussi, oui. Je trouve ça chouette, les questions.
Ouais, on aime bien les questions. On a l'habitude, on fait ça tous les jours.
Bonjour, moi je travaille chez Parents, donc Parents Magazine, et je souhaitais savoir combien de temps vous avez mis pour pouvoir monter vos communautés, en fait, parce que c'est assez neuf, notamment sur Instagram, etc. Il y a des communautés plus ou moins développées. Angélique, je sais que tu as travaillé avec Parents, donc ça fait longtemps, effectivement, que la marque te connaît, et il y en a d'autres que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Donc voilà, combien de temps ça vous a mis pour pouvoir monter vos communautés, etc.
La plus jeune, je crois que c'est Marie-Charlotte, hein. C'est ça ?
Oui, moi ça fait. Moi je suis principalement sur Instagram puisque mon blog a seulement un an et j'ai monté mon blog parce que les marques me l'ont demandé. Je vous avouerai que moi écrire un article ça me prend beaucoup de temps. J'ai un vrai métier, je suis infirmière en pédiatrie, donc l'univers de l'enfant. Et il y a 3 ans, quand j'ai commencé mon compte Instagram, c'était. D'ailleurs ça s'appelle Home Marie-Charlotte parce que je publiais de la déco. Rien à voir avec le milieu de l'enfant. Un jour je suis tombée enceinte, j'ai posté quelques photos de mon ventre et ma communauté a commencé à grossir. Mais ça a été assez fulgurant en fait. Je suis passée de, je sais pas moi, 1000 abonnés à 10 000 très vite. Bon là ça stagne, ce qui est normal quand on arrive vers 30 000. Et puis j'ai 2 comptes en fait Instagram. Un où vraiment, quand par exemple on m'envoie un produit, je présente le produit, vraiment, la marque, tout ça. C'est ce compte, c'est le monde des petites plumes, qui est aussi, lui par contre, en un an, j'ai pris 27 000 abonnés. Ça a été fulgurant. Et l'autre, c'est vraiment un compte lifestyle où j'introduis le produit, je le tag juste sur la photo, je ne le mentionne pas vraiment. Mais de toute façon, les gens, s'ils veulent savoir le produit, ils vont cliquer sur la photo, ils vont voir. Mais ça permet de ne pas vraiment faire placement de produit. Et c'est ce qu'elles aiment, en fait. Et voilà, moi, ma communauté, je l'ai construite. Vraiment, j'ai jamais voulu être influenceuse. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, et si j'étais influenceuse et qu'on m'offrait des produits gratuits ? Non, pas du tout, jamais. Parce que, mais j'ai acheté, j'ai présenté, et puis après les marques sont venues vers moi en voyant que ça marchait quoi. Et donc j'ai grossi comme ça. Souvent quand on me pose la question, je ne sais pas vraiment y répondre parce que je pense que quand on a envie de devenir influenceur, on n'y arrive pas. parce qu'il ne faut pas avoir envie d'être blogueuse ou envie d'être influenceuse. C'est, on ne sait pas, c'est une photo qui va plaire, c'est une façon de parler, une façon de s'exprimer. Moi, ça fait 11 ans que je vis à Paris. En plus, j'ai le côté infirmière qui fait qu'il rassure parce que bah, j'ai un poids en fait en étant infirmière. Parce que ça fait 11 ans que je travaille dans le milieu de l'enfant professionnellement. Ça fait pas de moi une meilleure maman que quelqu'un qui n'est pas infirmière, bien heureusement. Mais bon, bah voilà, du coup, j'ai une crédibilité en plus, qui est des fois lourde à porter d'ailleurs, parce que on m'envoie des photos de la peau de son enfant avec ses boutons et on me demande qu'est-ce qu'il a. Bah, j'en sais rien, je suis pas médecin. Mais voilà, mais sur les produits, elles me font confiance. Et voilà pourquoi une communauté va plutôt adhérer ou pas, mais on peut pas savoir à l'avance comment on va créer ça, quoi. Il faut pas avoir envie, voilà.
Je crois que c'est là, pour répondre à la question, c'est une tranche de 3 à 10 ans. Mais ce qui est important aussi, c'est que les communautés continuent à grandir. Ça, c'est bon signe, c'est de la bonne santé. Mais du coup, ouais, Marie-Charlotte, 3 ans, a été très rapide. Puis il y en a, du coup, qui se placent plus sur la durée.
Ben, moi, ça fait 5 ans. Voilà. J'ai ouvert mon blog enceinte de ma fille sur un coup de tête et j'ai eu des jumeaux et c'est ça qui m'a fait grandir. Je suis désolée, le secret pour avoir un gros compte, c'est d'avoir des jumeaux.
Moi, c'était depuis 2011 et en fait, j'avais un blog qui était plus axé sur le mariage au début et donc a un peu évolué aussi avec notre vie, et enfin mariage et lifestyle. Voilà, ça a évolué un petit peu avec notre parcours et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, on a des abonnés qui nous suivent depuis 2011 et donc qui ont l'impression vraiment de faire partie de notre vie, qui ont l'impression de nous connaître. Instagram plus tard aussi, mais voilà, ça évolue un peu différemment aussi selon les modes, enfin Instagram, réseaux sociaux, etc.
Moi sur Facebook, ça fait 2 ans et demi maintenant, et je pense que c'est le bon post au bon moment qui a fait que ça a explosé. Moi, contrairement aux autres, je l'ai ouvert quand je n'étais pas enceinte et pas du tout dans un projet de bébé. Mais depuis que je suis maman, en fait, mes publications sont beaucoup plus pertinentes. Et du coup, les publications, les mamans et les futures mamans s'identifient beaucoup plus parce que j'ai vécu ce dont je parle. Et puis, mon entourage aussi fait que je peux mettre en situation et puis parler de choses qui... sur lesquels on échange. C'est vraiment poster le bon post au bon moment qui fait que ça peut exploser. Même sur Facebook, alors qu'on disait que Facebook commençait à stagner un petit peu. Et puis Instagram qui commence. Je commence à mettre des publications sur Instagram depuis le mois de mars. Ça commence à augmenter aussi. Voilà.
Donc moi à peu près ça fait 5 ans que je suis sur Instagram et pareil, moi à la base je racontais ma petite vie, j'avais 50 personnes, j'étais très contente, j'adore faire des photos et après j'ai ouvert une boutique de cupcakes, donc chose qui n'a strictement rien à voir, et en fait les gens aimaient mes gourmandises, c'est le cas de le dire. Ensuite je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, donc ma fille, et en fait on a appris qu'elle était aveugle au bout d'un an, donc du coup c'est vrai que mon compte a un petit peu explosé et du coup voilà pourquoi. Et en fait, je raconte au quotidien, pas forcément que le handicap, hein, je tiens à préciser, c'est vraiment, je parle de tout. Et du coup, ma communauté s'est développée de plus en plus. Voilà.
Et puis moi, ça fait 10 ans. Voilà.